Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Il m'arrive parfois de penser que beaucoup d'affaires criminelles se ressemblent. Mais pas celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui est vraiment à part. Il s'agit de l'enquête sur le meurtre en juillet 1991 à Clairac dans le Lot-et-Garonne d'une jeune fille de 18 ans qui s'appelait Caroline Nolibet. C'est une enquête qui a duré 10 ans et c'est un cas d'école car elle cumule tous les défauts d'une mauvaise enquête à étudier dans les centres de formation de la gendarmerie et de la police. Le podcast est à votre disposition. Pour le débrief tout à l'heure, je serai avec l'avocat du tueur, je ne vous donne pas son nom pour ne pas spoiler la fin de cette histoire, maître Frédéric Vessière du barreau d'Agen. Vous êtes là, bonjour.
Bonjour monsieur Ondelat et bonjour à tous vos auditeurs.
Voici donc l'enquête sur le meurtre de Caroline Nolibet que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
C'est l'histoire d'une gamine de 18 ans que l'on retrouve mourante et puis finalement morte devant sa porte, un soir. Caroline Nolibet. Ce que je vais vous raconter maintenant, à ce stade, je ne sais pas si c'est la vérité. C'est ce que raconte le père, Claude Nolibet. C'est lui qui l'a découverte. Le 31 juillet 1991, le père est chez lui, à Clairac, dans le Lot-et-Garonne. Et vers 23h, il entend des gémissements dehors. Au début, il croit que c'est le chien, d'autant plus qu'il est malade. Alors il regarde par la fenêtre, et il voit une masse sombre devant le portail de son pavillon. Il se dit c'est le clébard. Alors il sort, et ça n'est pas le chien. C'est sa fille. C'est Caroline qui est là, couchée sur le sol, face contre terre, la tête accrochée au portail par sa cravate. Il s'approche. Caroline ? Il détache la cravate du barreau du portail, il la retourne, elle est couverte de sang. Mais elle respire.
Caroline !
Alors il court à l'intérieur de la maison, il veut appeler les secours, mais son téléphone est verrouillé. Il panique, il essaye de le déverrouiller, il n'y arrive pas, alors il court chez son voisin. Il sonne. Claude, mais qu'est-ce qui se passe ?
Je crois qu'on a tué ma fille.
Le voisin tout de suite appelle un médecin et il va voir sur place. Et elle est là, couchée près du portail. Il se penche, elle ne respire plus. Le docteur arrive, Caroline est morte. Le voisin appelle tout de suite la mère, Christiane. Les parents sont séparés. Et c'est le médecin qui appelle les gendarmes. Et quand ils arrivent, ils découvrent la scène de crime. Entre-temps, le père a dépendu la gamine. Les gendarmes la trouvent couchée sur le dos.
À mon avis, là, tu vois la plaie sur le thorax, là. À mon avis, c'est un coup de couteau. Hein.
Et puis là, les gendarmes se tournent vers le père.
Monsieur Nolibet, vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances vous avez découvert le corps de votre fille ?
Il raconte. Il explique comment il a retrouvé sa fille, vivante, comme pendue au portail. Et puis les gendarmes font le tour de la scène de crime. Alentour, il n'y a pas d'armes du crime, il n'y a pas de couteau. Il n'y a pas non plus de traces de lutte. Mais là, près du portail, il y a une trace de semelle. Et puis quelques mégots. Et près du corps, le parapluie de Caroline. Tout ça est saisi, glissé dans des sachets plastiques pour le labo. Je vous le dis tout de suite, dans quelques heures, il va se mettre à pleuvoir. Il n'y aura rien d'autre à tirer de cette scène de crime. Et puis les gendarmes vont vers la maison.
Dis donc, t'as vu là, sur le volet ? On dirait du sang, ça, non ?
Une trace de sang sur le volet droit. Une fois à l'intérieur, du sang, ils en trouvent aussi sur le sol de la véranda, sur une table, sur un interrupteur et sur le téléphone. Les gendarmes se disent, c'est le père. C'est le père couvert de sang qui a dû serrer sa fille contre lui et qui a mis du sang partout. Et comme il est là, il lui demande de confirmer.
Le sale, là, sur l'interrupteur. C'est vous qui l'avez mis ? La réponse du père est confuse. Oui, peut-être, il sait pas, c'est possible, il se souvient plus. Et puis ça se complique pour lui avec l'histoire du téléphone. Il dit que le téléphone était verrouillé et que dans la confusion, il n'est pas arrivé à le déverrouiller et que c'est pour ça qu'il est allé téléphoner chez le voisin. Bon, en soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais le médecin qui prévient les gendarmes dit qu'il n'a eu aucun mal à téléphoner, qu'il n'a rien eu à déverrouiller. Bref, vous l'avez compris, au tout début de cette histoire, le père est dans le collimateur. Je vous ai parlé des traces de sang sur le volet et du téléphone verrouillé qui ne l'était pas vraiment. Eh bien, il y a autre chose qui conduit à braquer les regards vers le père. Les clés, le trousseau de clés de Caroline. Savez-vous où on le retrouve ? Sur la porte d'entrée, à l'intérieur.
Monsieur Lolibé, comment se fait-il que les clés de Caroline soient là ? Hein ? Mais vous savez, les clés, d'habitude, on les met dans le sac à pain à l'extérieur. Elle comme moi, hein. En rentrant ce soir, j'ai dû me tromper. J'ai dû prendre son trousseau, c'est tout.
Mouais. Sauf que la mère, qui a vu Caroline en fin d'après-midi, raconte une autre histoire.
Elle est passée chez moi avant de rentrer chez son père. Et elle avait ses clés. Elle a posé son trousseau sur la table en arrivant. En fait, je me souviens, elle a un porte-clés en forme de cœur. Je le vois sur la table.
Et alors, comment ces clés se retrouvent-elles sur la porte à l'intérieur ? Pourquoi le père raconte-t-il cette histoire de sac à pain ? Le lendemain, le père est placé en garde à vue. Et lui, le naïf au début, il ne réalise pas qu'on le soupçonne. Et puis les questions se font de plus en plus pressantes. Et il commence à comprendre que les gendarmes pensent qu'il a pu tuer sa fille. Notamment à cause de cette histoire de clé. Et il comprend que les gendarmes se demandent si le meurtre de Caroline n'a pas eu lieu dans la maison. Et si ensuite on n'a pas tiré le corps dehors. Et qui ? Eh ben lui, le père. Mais bon, il est tout de même relâché. N'empêche que Clairac, c'est un petit village, hein, et les gens...
Paraît que le père, il était couvert de sang. Ah oui, couvert de la tête aux pieds. À mon avis, c'est lui.
L'autopsie a lieu 5 jours après. Je sais, c'est beaucoup, mais on est en pleine vacances d'été. Le légiste étudie d'abord la plaie sur le thorax. Et il confirme que c'est un coup de couteau. Le couteau a sectionné une côte au passage, il a perforé le péricarde, et il a terminé sa course dans le ventricule droit du cœur, sans le traverser. La plaie est perpendiculaire, elle fait 4 cm de large.
À mon avis, la mort n'a pas été instantanée. Il est vraisemblable qu'elle soit survenue, je dirais, 10, 15 minutes après le coup de couteau.
Ça n'est pas la seule plaie. Il y a aussi un coup sur la paupière supérieure gauche et un coup sur l'arête du nez. Mais pas de signe de strangulation, pas non plus de signe de violence sexuelle. La toxicologie est négative, ça veut dire que Caroline n'était pas droguée. Donc on résume. Son agresseur la frappe, bim, bam, et il lui plante son couteau dans le cœur. Qui ? Qui est venu seriner cette gamine sur le seuil de sa porte ? Et pourquoi ? Caroline était une enfant de Clairac, troisième d'une famille modeste. Le père est cariste en usine, la mère est ouvrière agricole. Les deux aînés ont quitté la maison. La mère, récemment, a refait sa vie. Et Caroline a fait le choix de rester vivre avec son père. Tout en restant très proche de sa mère, hein, elle la voyait presque tous les jours. À 18 ans, Caroline était devenue, chez son père, la femme de la maison. Elle faisait les courses, le ménage, les comptes. Elle travaillait à la chaîne dans une usine de conditionnement de haricots verts. Un petit copain ? Non. Enfin si, elle en a eu de ci, de là, mais pas longtemps. Rien de sérieux.
Alors on tente de reconstituer l'emploi du temps de Caroline durant la soirée du meurtre. Elle devait aller à une fête avec sa copine Valérie. Mais la Valérie en question raconte qu'elle passe la chercher en début de soirée. Elle n'est pas là. Et le père ne sait pas où elle est.
Moi, je sais pas où elle est, moi. Elle a dû aller dîner chez sa mère ou alors chez son copain, là, Albert.
La copine Valérie part donc seule à la fête. Pendant ce temps-là, Caroline est en effet chez son copain Albert. Ils dînent ensemble, vers 20h. Le copain Albert raconte qu'à la fin du repas, il la ramène en mobylette chez sa mère. Il est alors 21h30, 21h45. La mère confirme. Et elle dit qu'après, vers 22h10, Caroline rentre chez elle, enfin chez son père, à pied. Il lui faut 10 minutes pour aller de chez sa mère à chez son père. Elle arrive donc devant chez elle à 22h20. Qui l'attend? Qui l'a suivi? À Clairac, il y a 2000 habitants. Mettez-vous à la place des gens. Le père a été placé en garde à vue. Pas simplement interrogé, en garde à vue. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ils n'ont pas fait ça pour rien. Patati patata, c'est un village qui s'est mis dans la tête que Claude Nolibé avait tué sa fille Caroline et qui n'est pas prêt de se l'enlever de la tête. Mais je vous l'ai dit, les gens de Clairac, pas tous, hein, mais beaucoup, se disent « il n'y a pas de fumée sans feu, il n'est pas blanc-blanc, le papa ». Et à la moulinette de la rumeur, la pauvre Caroline en prend aussi pour son grade.
Et le fréquenter des gitans? Ah, ça si, si, si. Elle était tout le temps droguée. Je vous l'assure. Bon, la Caroline, là. C'est ce qu'on appelle une fille facile. Enfin, vous voyez, quoi.
Il y en a même qui disent qu'elle se prostituait. Et d'autres, tenez-vous bien, qu'elle entretenait avec son père une relation incestueuse.
Nolibé, il a perdu sa deuxième femme.
Et les gendarmes, ça? Eh bien, ils sont obligés de le vérifier. Et je vous le dis tout de suite, pour ne pas salir plus longtemps la mémoire de la pauvre Caroline, tout ça est faux et archi-faux. Les obsèques de Caroline ont lieu le 7 août à l'église de Clairac. Tout le village est là, y compris les langues de pute. Et bien sûr, les gendarmes sont là aussi, et à l'église, et ensuite au cimetière, ils observent les uns et les autres, et surtout le père. Parce que dans leur tête de gendarme, comme dans celle du patron de l'enquête, le procureur de la République de Marmande, c'est lui. Ils n'ont pas encore de preuves, pas assez d'arguments pour le coffrer, mais c'est lui. Valérie, l'amie de Caroline qui est venue la chercher le soir du meurtre, est réinterrogée. Les gendarmes veulent mettre au clair cette histoire de clés.
Quand vous êtes venu la chercher, vous vous souvenez s'il y avait des clés sur la serrure de la porte d'entrée?
Oui, oui, il y avait bien des clés.
Et tu saurais reconnaître le trousseau de clés qui était à ce moment-là sur la serrure?
Ah oui, ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas les clés de Caroline.
Intéressant. En début de soirée, donc, le trousseau du père serait sur la porte, et en fin de soirée après le meurtre, ce serait celui de Caroline. Qui aurait pu jouer à cet étrange changement de clés, si ce n'est le père? Alors le 12 août, le père est à nouveau placé en garde à vue. On est en 1991, il n'est pas prévu d'avocat. Les gendarmes la jouent donc à l'ancienne. Ils veulent le faire craquer. Faute de preuves, ils veulent des aveux. Alors au début de la garde à vue, ils tracent un cercle au sol à la craie. Et ils mettent Claude Nolibé au milieu.
Bien, vous avez interdiction de sortir de ce cercle.
On est en plein mois d'août. Il fait chaud.
Je pourrais avoir à boire, s'il vous plaît.
Un gendarme se lève, va remplir un verre d'eau et il le pose à l'extrémité de la table.
Tu auras ton verre d'eau quand tu nous auras dit enfin la vérité.
Mais lui, il reste droit dans ses bottes.
Enfin, je n'ai pas tué Caroline. Je n'en aurais même pas eu l'idée.
Il Et pendant toute la durée de sa garde à vue, il ne bouge pas. Et à la fin, alors qu'il n'a rien avoué et qu'il n'y a aucune preuve, eh bien il est déféré devant le juge d'instruction et inculpé de meurtre. Et tant qu'à faire, écroué. Le 16 août, le juge ordonne une nouvelle perquisition de la maison. Pour l'occasion, les gendarmes vont chercher Claude Nolibet et ils le sortent de sa cellule. Et sur la route de Clairac, ils sont, comment dire, un peu déroutés par son comportement. Il y a de quoi, hein ? Le père est d'humeur badine. Il plaisante avec eux. Il leur raconte même une blague. Ça n'arrange pas ses affaires. Dans la maison, les gendarmes découvrent de nouvelles traces de sang, notamment une trace dans l'évier. Et dans la chambre de Caroline, ils tombent sur des vêtements encore tachés de sang, mais qui ont manifestement été lavés. Et ça non plus, ça n'arrange pas les affaires du père. Le juge missionne l'un des papes de la police scientifique de l'époque, Loïc Le Ribaud, qui rend son rapport le 18 août. Rapport dans lequel il relève un certain nombre de points. Le père dit qu'il a dépendu le corps de sa fille et qu'il l'a retourné. Alors pourquoi le cadavre, quand les gendarmes le découvrent, a-t-il les jambes croisées ? Deuxième bizarrerie. L'expert a examiné les giclures de sang sur le pantalon du père. Ça ne colle pas du tout avec ce qu'il dit avoir fait. Troisième étrangeté. Pourquoi a-t-il du sang de sa fille partout sur le bas du corps et pas sur le torse ? Enfin, dernier point inexplicable, vous vous souvenez qu'on a retrouvé du sang sur le volet droit près de l'entrée ? Le père dit qu'il a peut-être fait ça avec sa main. Or, il n'y a pas d'empreinte dans cette tache de sang. Il n'y a pas de trace de doigt. Cette tache semble avoir été faite par une surface lisse. Pourquoi pas la veste en cuir de Caroline ? Ce qui voudrait dire que Caroline entre dans la maison avant d'être assassinée. Et donc tout ça est accablant pour Claude Nolibé, qui essaye de s'expliquer.
Mais enfin, le sang sur mon pantalon, c'est quand je me suis penché sur elle pour écouter son cœur, pour voir si elle était vivante, je vous jure.
Et la trace de sang lisse sur le volet.
Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'elle est agressée près de la porte, et puis qu'après coup elle s'appuie sur le volet, et qu'ensuite elle revienne vers le portail pour s'écrouler ? C'est possible, non ?
À son avocat qui s'étonne de le voir aussi serein en prison, Claude Nolibé dit
« Pourquoi est-ce que je hurlerai que je suis innocent ? Ils sont savants ! Ils vont bien finir par se rendre compte que c'est pas moi le coupable !»
Le 16 septembre, un mois et demi après le meurtre, nouvelle reconstitution devant la maison, où est placé dans la position du corps de Caroline un mannequin couvert de sauce tomate. Claude Nolibé est là, on lui demande de rejouer les gestes qu'il a accomplis la nuit de la mort de sa fille. Ça dure 7 heures. Et à un moment, la juge demande à Claude Nolibé de se saisir du mannequin comme il a saisi sa fille. Et là, il craque.
« Ah non !» Non, ça, vous me le ferez jamais faire.
Silence dans la petite troupe de juges, de gendarmes, d'avocats et d'experts réunis autour de lui. Mais à partir de là, la juge se laisse gagner par le doute. Et le 27 septembre, contre l'avis du procureur, elle décide de libérer Claude Nolibé. Sans pour autant décréter un non-lieu, hein. Il reste inculpé, mais libre. Il est temps de s'intéresser à une question, une seule. Pour quelle raison, quel mobile, le père aurait-il tué sa fille Caroline ? D'après l'expert psychiatre, Claude Nolibé entretenait une relation fusionnelle avec elle. Fusionnelle, une relation de quasi-dépendance, qui peut s'expliquer par son histoire personnelle. Né en 39 à Clairac, dans une famille de 6 enfants, Claude Nolibé a perdu sa maman quand il avait 9 ans. il a été élevé par ses sœurs. Et ensuite, ses frères et ses sœurs sont morts les uns après les autres. Et puis son couple a volé en éclats. Il ne lui restait plus que Caroline. Ça explique la puissance des liens qu'il avait avec elle. Tous ces racontars de village ne sont que des sornettes. Oui, Caroline avait de l'ascendant sur son père. Oui, elle jouait à la fois à la mère et à la fille. Oui, elle n'aimait pas qu'une femme s'approche un peu trop près de son papa. Mais c'était tout de même une belle relation père-fille. À partir de l'automne 1991, il ne se passe plus rien dans cette enquête. Le père reste inculpé, mais libre. Aucun nouvel élément ne vient nourrir le dossier. Et les années passent. 4 ans. Et à un moment donné, la juge doit faire un choix. Ou elle décrète un non-lieu, le meurtre de Caroline restera non résolu, ou bien elle renvoie le père devant la cour d'assises. Elle décide d'une troisième voie. Elle décide de relancer l'enquête. Une nouvelle équipe de gendarmes est nommée, qui pointe tout de suite une lacune. À 600 mètres de chez Claude Nolibé, se trouve un IME, un institut médico-éducatif, qui accueille des adultes handicapés mentaux. En rentrant de chez sa mère, le soir du meurtre, Caroline est forcément passée devant. Comment se fait-il qu'on n'ait pas exploré cette piste à l'époque? Alors on le fait, 4 ans après. Les gendarmes débarquent à l'IME et réclament la liste des résidents de l'époque. Ils étaient 5 à dormir sur place le soir du meurtre. Les 5 noms sont passés au fichier. Aucun n'a de casier judiciaire. Et la piste est refermée. Et à nouveau, sur la liste des suspects, il ne reste plus que le père. Le père qui a perdu tous ses amis. Le père à qui plus personne ne parle. Le père qui est montré du doigt dans tout le village. Et qui, à un moment donné, désespéré, finit par écrire au président de la République. Il va lui falloir 2 ans de plus, 1997, pour qu'enfin on prononce à son endroit un non-lieu pour insuffisance de charge. Il n'y en a aucune, en vérité, au dossier qui accuse le père. Mais comme le meurtre reste non élucidé, les gens continuent de penser que c'est lui. Et donc finalement, il est obligé de quitter Clairac, où pourtant il est né. Cette affaire serait sans doute restée impunie s'il n'y avait eu un coup de chance. En mai 2001, 10 ans après le meurtre, une femme de ménage de l'Institut médico-éducatif trouve sous un lit un petit bout de papier plié. Elle le déplie et dessus il est écrit « Je suis l'assassin de Caroline Nolibé ». Alors elle le transmet immédiatement à la direction de l'Institut qui prévient tout de suite les gendarmes. Et à partir de là, ça devient compliqué. La chambre où on a découvert le petit mot est occupée par un pensionnaire de 38 ans qui s'appelle Philippe Guendouze. C'est un peu le chouchou du foyer. Il est poli, attentionné, assez courtois. On s'aperçoit d'ailleurs au passage que son nom ne figurait pas sur la liste donnée en 1995 quand les gendarmes se sont brièvement intéressés à la piste de l'IME. On l'avait oublié. Bon. Le problème avec Philippe Guendouze, c'est qu'il a 7 ans d'âge mental. Il est placé là depuis 20 ans, depuis ses 17 ans. Il ne pose, disent ses éducateurs, aucun souci particulier. Ils disent même qu'il n'est pas loin de pouvoir vivre de manière autonome, dans un foyer ouvert. Il travaille d'ailleurs au CAT de l'Institut. Et il a une amoureuse, une pensionnaire de l'IME. Mais quand on passe son nom au fichier, on s'aperçoit que Philippe Guendouze a un passé. En 1985, soit 6 ans avant le meurtre de Caroline, il a agressé une jeune fille avec un couteau. Ça s'est passé à Saint-Nivrade, tout près de Clairac. Philippe Guendouze suit une jeune fille de 17 ans qu'il trouve jolie. Il a un couteau. Il saute sur elle pour la violer. Elle se débat, il la poignarde au ventre et il s'enfuit. En raison de son handicap mental, il est déclaré irresponsable pénalement. Il est interné en hôpital psychiatrique et puis quelques mois plus tard, il ressort de l'hôpital et il retrouve sa place à l'IME de Clairac. Et ce qui est étrange, c'est qu'en 1991, quand Caroline est assassinée, personne ne pense à lui. Il faut dire qu'elle meurt le 31 juillet et que l'IME ferme ses portes pour les vacances le 1er août. Et au retour des vacances, la vie reprend tranquillement et les gendarmes, obsédés par le père, ne vont pas plus loin. Alors est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est Philippe Gandouze qui a poignardé Caroline ? Le 30 mai 2001, 10 ans après le meurtre de Caroline, les gendarmes débarquent dans la chambre de Philippe Gandouze pour une perquisition. Quand il les voit, il se redresse sur son lit et il crie
« J'ai tué personne !»
Mais dans sa chambre, on trouve une sorte de journal de bord que les gendarmes feuillettent immédiatement. Et en 1992, il écrit « La fille Nolibé est morte. Elle s'est fait assassiner. Tuez la prochaine. Liste que je dois tuer. Liste que je dois agresser. » Et dans sa chambre, on trouve aussi 3 couteaux et un gant sectionné au poignet. Philippe Gandouze est immédiatement placé en garde à vue. Et il dit les choses le plus simplement du monde.
« J'ai noté la vérité sur le papier. »
Et après, il désigne le couteau qu'il a utilisé, un opinel. Et il explique que le gant lui a servi à masquer les empreintes.
« Je la voyais passer tous les jours devant ma chambre. Je la trouvais jolie. »
Alors il la suit, il la rattrape. Il la poignarde d'abord au cou et elle lui dit
« Mais qu'est-ce que je t'ai fait ?»
Et lui, il lui plante son couteau dans le cœur. À l'issue de son interrogatoire, Philippe Gandouze est présenté au juge, mis en examen et écroué. Quelques semaines plus tard, a lieu une reconstitution. Il se prête au jeu. Mais 3 mois plus tard, il se rétracte. Peu importe. Le juge le renvoie devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne et là, évidemment, se pose la question de sa responsabilité. Son retard mental peut-il lui éviter les assises ? On sollicite 3 experts psychiatres. Le premier dit qu'il est accessible à la sanction et qu'on peut le juger. Le deuxième dit tout l'inverse et le déclare irresponsable. Et le troisième, comme le premier, propose de le juger en tenant compte de l'altération de son discernement. C'est finalement la solution qui est retenue. Philippe Gandouze comparaît devant les assises d'Agen le 10 janvier 2004. Il se retrouve dans le box, un peu déconnecté, souriant, l'air pas inquiet. De toute façon, il est innocent.
La fille, là, je l'ai pas tuée, hein ?
On fait venir à la barre sa victime de 1985.
Ce jour-là, j'ai cru mourir.
Le personnel de l'Institut médico-éducatif vient dire qu'il était le plus doux du centre. Et à la fin, il se passe quelque chose d'extrêmement rare. Le père de Caroline est là, bien sûr. Pendant 10 ans, il a fait office de suspect. Il est fatigué, il est malade, il est au bout du rouleau. Et l'avocat général s'adresse à lui.
Monsieur Nolibé, je vous présente ici les excuses de la justice française. Au nom de tout ce que vous avez subi.
Et ensuite, il prononce ses réquisitions à l'encontre de Philippe Gandouze.
Je rappelle ici que les faits justifieraient une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, n'est-ce pas ? Mais bien entendu, nous tiendrons compte des déficiences de l'accusé. Je vous demande donc qu'il soit condamné à une peine de 13 à 15 années de détention.
La défense, bien entendu, plaide l'acquittement au titre du handicap mental. Et finalement, Philippe Gandouze est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Il ne fait pas appel. Pour avoir été injustement accusé et incarcéré, Claude Nolibé, le père, au bout du rouleau, obtient 50 000 euros d'indemnisation. C'est le prix d'une vie détruite et de 10 années de soupçons sans preuve. Voilà donc pour cette histoire dont je vous disais, en la débutant tout à l'heure, qu'elle était totalement à part dans le décor criminel de ces 20 dernières années. Et pour la débriefer, je suis avec l'avocat de Philippe Guendouze, maître Frédéric Vessière du barreau d'Agen, qui est là avec moi au téléphone. Revenons rapidement sur ce procès, maître. Vous me confirmez que vous avez tenté de plaider l'acquittement pour Philippe Guendouze en raison de son handicap mental?
Tout à fait. Nous avons effectivement, Hervé Caraval et moi-même, qui intervenions donc tous les deux pour la défense de Philippe Guendouze, plaider l'acquittement, non pas seulement au regard de sa déficience mentale, mais également en tenant compte de l'absence totale de preuves matérielles et surtout de l'impossibilité pour Philippe Guendouze d'avoir été coupable compte tenu de certaines constatations qui avaient été faites sur les lieux et notamment des clés de Caroline que vous avez évoquées tout à l'heure.
C'est-à-dire que lui n'a pas pu manipuler les clés ?
C'est-à-dire que l'hypothèse du ministère public et du juge d'instruction aurait été que Caroline aurait été frappée par Philippe Guendouze à 70 mètres de son domicile, qu'elle aurait eu le temps matériellement de pouvoir aller jusqu'au domicile, mais se serait effondrée sur la grille à l'entrée de la maison, et c'est là que son père l'aurait entendue et l'aurait trouvée. Mais dans ces conditions, eh bien, elle n'a jamais pu aller jusqu'à la porte de la maison, porte sur laquelle on a pourtant retrouvé, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, ses clés. Or, on est certain que lorsqu'elle venait de chez sa mère, avant d'être agressée, elle avait ses clés sur elle. Donc comment, si Philippe Guendouze l'a frappée, comment ces clés ont-elles pu se retrouver de Caroline agonisante sur le seuil de la maison jusqu'à la porte de la maison? Nous n'avons aucune réponse. Et les enquêteurs que nous avons interrogés pendant la session de la cour d'assises à cette époque-là ont eux-mêmes convenu qu'il y avait là un problème qu'ils étaient incapables d'élucider.
Il est assez vain, on le sait, d'aller plaider l'irresponsabilité pénale devant la cour d'assises. Il fallait le faire devant la chambre de l'instruction. Lorsque le juge d'instruction lui-même estime qu'il n'y a pas d'excuse d'irresponsabilité pénale, c'est rarement la cour d'assises qui le décide.
Alors, il y avait différents rapports d'expertise. Comme vous l'avez indiqué, on a eu tout et son contraire. On a eu des experts qui ont plaidé et estimé qu'il y aurait eu une altération du discernement, d'autres une abolition du discernement. Dans ce dossier, vous avez indiqué tout à l'heure que M. Nolibé avait été dès le départ dans le collimateur. De la même façon, M. Guendouze a été exactement lui aussi dans le collimateur par la suite. Parce qu'il n'y avait aucun élément matériel à titre de preuve.
Il y a le petit papier quand même, maître. Il y a le petit bout de papier sous son lit.
Eh bien, écoutez, si on doit condamner les gens uniquement parce qu'ils écrivent des choses, certes, bizarres, certes, qui peuvent paraître suspectes sur un petit bout de papier, eh bien, à ce moment-là, on se contente de preuves extrêmement faibles et qui n'en sont pas. Pourquoi Philippe Guendouze a écrit ces mots-là, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a le quotient intellectuel d'un enfant de 7 ans et qu'un enfant de 7 ans est susceptible de faire ce genre d'acte. Alors, vous avez aussi dit que dans un de ses papiers, il était écrit « La fille Nolibé s'est faite, elle s'est faite assassiner ». Pourquoi avoir écrit à ce moment-là « Elle s'est faite assassiner » et non pas « Je l'ai assassinée » Il y a aussi avec ces papiers, beaucoup de contradictions pour lesquelles nous n'avons pas aujourd'hui de réponse.
Quelle peut être l'utilité de la prison pour un homme dont le quotient intellectuel est celui d'un enfant de 7 ans ?
Aucune. Ce que disaient les experts, c'était qu'il était important qu'une déclaration de culpabilité, si jamais il était effectivement coupable de ce meurtre, qu'une déclaration intervienne pour lui donner un sens, mais qu'en revanche, l'utilité d'une peine de prison longue n'en aurait pas, car il n'était pas estimé comme quelqu'un de dangereux. Et c'est tout le paradoxe, c'est que, comme vous l'avez dit aussi, eh bien, Philippe Guendouze est un pensionnaire exemplaire, il est sympathique, il n'a jamais fait preuve d'aucun acte de violence, personne n'a jamais craint une éventuelle agression à caractère sexuel ou une menace. Et donc son comportement est tout à fait différent de la personne que l'on essaie de dépeindre.
Comment s'est passée son incarcération ? Je suppose qu'aujourd'hui, il est sorti de prison ?
Alors, la problématique, c'est que Philippe Guendouze se trouvait parfaitement bien en prison, puisque, hormis la privation de liberté, eh bien, cela ressemblait beaucoup à la vie extrêmement organisée, extrêmement structurée qu'il avait au sein de l'Institut médico-éducatif. Et de la même façon que M. Nolibé, en prison, ne criait pas son innocence, eh bien, ce que M. Guendouze, lui, voyait simplement en prison au début, c'était une vie facile dans laquelle on ne l'obligeait pas à aller travailler, dans laquelle, eh bien, finalement, il n'était pas si mal que ça.
Alors, maître, au-delà de votre statut d'avocat du tueur condamné de Caroline Nolibé, je voudrais qu'on essaye ensemble de décrypter les mécanismes qui ont conduit à accuser injustement le papa de Caroline. Il y a une première chose, moi, qui me vient à l'esprit, c'est que on a du mal, dans notre culture sans doute, à concevoir qu'il y ait entre un père et une fille une relation extrêmement forte. Entre un père et un fils, oui, on l'imagine. Entre une mère et une fille, oui. Mais entre un père et une fille, il faudrait que ce soit malsain, quoi.
Certainement, c'est certainement ce qui a guidé pour partie les enquêteurs, puisque dès le départ, effectivement, la piste privilégiée a été celle de la culpabilité de Claude Nolibé, ce qui fait que l'on a négligé les autres éléments de l'enquête. Mais dans le contexte familial qui était le leur, eh bien, il pouvait tout à fait y avoir une relation assez forte, Caroline étant la femme de la maison. Mais c'est certainement quelque chose qui, dans ce petit village, et pour les gendarmes en charge de l'enquête à l'époque, était peut-être difficilement... Oui, tout à fait.
La deuxième chose, bon, c'est que voilà un type qui a perdu sa fille chérie, la seule, au fond, personne qui lui restait, après la mort de ses frères et sœurs, de sa maman, de son papa, et le divorce d'avec sa femme. Et alors, on lui pose des questions précises, et il sait pas y répondre de manière précise. Et évidemment qu'on peut comprendre qu'un homme frappé par le deuil comme il l'est, ne sait pas répondre à des questions précises.
Tout à fait, on imagine... toujours que les gens sont capables de répondre de façon rationnelle et objective, mais bien évidemment, c'est extrêmement compliqué dans ce type de conditions, surtout lorsque l'on a un comportement un petit peu naïf et qu'on n'imagine absolument pas que l'on puisse être suspecté. Mais parfois, les gens ont des réactions un petit peu étranges, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils sont des coupables.
On a aussi d'ailleurs dans cette enquête la preuve que la présence de l'avocat est bien utile en garde à vue, parce qu'on a quand même un premier interrogatoire de garde à vue surréaliste. Ce rond tracé à la craie sur le sol, la chaise au milieu et le père Nolibé assis dessus, à qui on dit vous n'avez pas le droit de sortir du cercle. Enfin, c'est quelque chose aujourd'hui qu'un avocat ne laisserait pas passer.
Tout à fait. Heureusement, la loi est intervenue depuis. Elle a été modifiée pour imposer la présence de l'avocat. Mais ce genre de comportement, bien évidemment, s'explique par la volonté des enquêteurs de réussir à progresser. Et en l'absence de moyens de preuve, objectifs et matériels, et bien de tout miser sur l'aveu. Et de la même façon que Claude Nolibé a été entendu dans des conditions particulières et en l'absence d'un avocat, et bien de la même façon, Philippe Guendouze, quand il est placé en garde à vue, lui aussi, alors qu'il a le quotient intellectuel d'un enfant de 7 ans, et bien Philippe Guendouze ne sera pas assisté d'un avocat, alors même que sa gérante de tutelle se présente expressément à la gendarmerie pour demander à ce qu'un avocat soit nommé, ce qui lui sera refusé.
Alors la question des clés, moi j'ai trouvé la question des clés très intéressante, parce que on a donc deux personnes, d'abord la mère de Caroline et ensuite sa copine Valérie, qui disent deux choses contradictoires. La mère dit Caroline avait ses clés et les clés on les retrouve à l'intérieur de la maison, Et Valérie dit, non, c'était pas les clés qui étaient sur la porte, j'en suis certaine. Est-ce que tout simplement ces deux femmes, avec les meilleures intentions du monde, n'ont pas pu se tromper toutes les deux?
Bien évidemment, il paraît difficile d'imaginer que les deux clés aient été ensemble au même endroit.
Voilà.
Donc il y a forcément un des témoignages qui est erroné. Cela vient aussi corroborer la faiblesse des témoignages et le fait que malgré toute la bonne volonté, eh bien les témoins soient capables de se tromper. Dans le cadre d'un hold-up, on peut interroger 10 témoins, on aura 10 descriptions différentes d'un assaillant.
La fragilité des témoignages, c'est essentiel. Juste une question, parce que vous connaissez bien l'affaire, beaucoup mieux que moi, il n'y a pas de conflit entre la mère et le père qui ait pu amener la mère à raconter des sornettes pour faire tomber son ex-mari?
Rien dans le dossier ne milite dans ce sens, à ma connaissance.
Les excuses de l'avocat général au nom de la justice française prononcées au procès, j'imagine que pour vous c'était une première, non ?
Oui, c'était une première qui s'est exercée au détriment de mon client, car elle était une pression supplémentaire mise sur la justice pour que la justice répare son erreur.
Oui.
Voilà, et puisqu'on lui présentait un condamné sur un plateau, si je puis dire, dont on avait que les aveux obtenus encore une fois dans des conditions particulières, mais en l'occurrence, pour moi, cela restera le seul moment où j'aurais entendu effectivement dans une enceinte de justice un avocat général présenter ses excuses au nom de la République française.
Entre nous, c'est plutôt pas mal, non ? Que ça se soit fait, que ça se soit dit.
C'est plutôt pas mal, je crois que c'était nécessaire pour M. Nolibé, car bien que je sois le défenseur de M. Gandouze, je n'ai aucune suspicion que M. Nolibé ait pu être l'auteur de cet acte. Je pense que c'était mérité. Je pense aussi que lorsque la justice ou lorsqu'une enquête part du mauvais pied, eh bien malheureusement, le chemin qui l'a conduit arrive souvent à une conclusion erronée. Ça a été le cas pour M. Nolibé, et je pense que 10 ans après, malheureusement, cela a été de même pour M. Gandouze, notamment en raison de cette impossibilité matérielle liée aux clés que vous avez évoquées tout à l'heure.
Les gendarmes ont-ils prononcé des excuses ?
Eh bien écoutez, en ce qui concerne les gendarmes de l'époque, non. Pas particulièrement.
Ils sont venus devant la cour d'assises ?
Alors écoutez, dans mon souvenir, nous avons entendu beaucoup de gendarmes et notamment ceux responsables de la dernière enquête concernant M. Philippe Gandouze. En ce qui me concerne, je n'ai pas de souvenir particulier, donc je ne voudrais pas m'avancer et moi aussi faire un témoignage erroné.
50 000 euros pour indemniser un homme qui est allé en prison pour rien et qui a focalisé le soupçon de tout un village pendant tant d'années, c'est assez ? Ça me paraît peu, moi.
50 000 euros, est-ce que, de toute façon, sur le principe, est-ce que de l'argent est censé réparer ce type d'atteinte ? On n'a pas trouvé de meilleur moyen. Donc aujourd'hui, faute de mieux, c'est ce que l'on m'accorde. Il est vrai que 50 000 euros, avec le recul, paraissent bien peu au regard de tout ce gâchis.
Je vous remercie infiniment, maître Frédéric Vessière du barreau d'Agen.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.